affinités électives. Une émission proposée par Canal Academy.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy, merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous vous proposons un formidable voyage dans le temps. Nous allons en effet faire un grand bond en arrière pour aller à la découverte du néolithique et surtout des hommes et des femmes qui ont vécu, pour justement découvrir comment vivaient nos lointains ancêtres. Nous découvrirons ainsi, non sans émotion d'ailleurs, leur mode de vie, mais aussi leurs préoccupations, leur façon de penser, leur imaginaire. Vous le verrez, ce sera une exploration, une rencontre extrêmement émouvante, car par-delà les quelques 10 à 12 000 ans qui nous séparent d'eux, nous découvrirons que malgré tout, ils restent très proches, tant ils ont posé les bases des sociétés qui sont aujourd'hui les nôtres. C'est ce que nous allons voir, découvrir, redécouvrir avec Jean Guilaine. Jean Guilaine, bonjour.
Bonjour.
Jean Guilaine, vous êtes professeur au Collège de France, membre de l'Institut, vous êtes membre en l'occurrence de l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres, et bien entendu, vous êtes un spécialiste du néolithique, et vous venez de publier un ouvrage passionnant intitulé « La seconde naissance de l'homme, le néolithique ». Alors ma première question porte justement sur ce titre, pourquoi « seconde naissance de l'homme » ?
Alors, seconde naissance de l'homme, parce qu'en fait, l'homme existe depuis en gros 2 500 000 ans, et pendant la très très longue durée des temps paléolithiques, donc qui précède le néolithique, l'homme a vécu essentiellement en prédateur dans la nature. Autrement dit, il a puisé dans la nature ce que la nature lui offrait. Il chassait, il pêchait, il cueillait des plantes, des fruits sauvages, il mangeait des tubercules, etc. Mais donc, il n'intervenait pas sur la nature, il n'intervenait pas, il ne modifiait pas la nature. Or, vers la fin des temps préhistoriques, ce que nous allons appeler le néolithique, l'homme change progressivement sa façon de vivre, sa façon d'acquérir son alimentation en transformant la nature, qu'il s'agisse de la nature végétale, puisqu'il va domestiquer les plantes et les légumineuses, ou de la nature animale, puisqu'il va domestiquer un certain nombre d'animaux pour en consommer la viande. Autrement dit, l'alimentation de l'homme à partir de ce moment-là ne sera plus une alimentation puisée dans le milieu naturel, mais dans un milieu qu'il a lui-même modifié. Et c'est à partir de ce moment-là que nous sommes devenus des éleveurs, des paysans, des agriculteurs, et en même temps, cette transformation qui est purement, je dirais, alimentaire, disons économique, s'est accompagnée d'un changement total dans les mentalités. C'est-à-dire que l'homme s'est fixé dans des villages, et il a créé le village. Pour gérer ce village dont les populations sont allées en grossissant au fil du temps, il a été obligé d'inventer de nouveaux systèmes de relations. En même temps, à ce village, il a fallu donner une identité pour le différencier des autres villages. Donc, petit à petit, va s'instaurer un monde qui est le monde rural, en fait, qui ensuite a débouché sur les communautés paysannes du monde historique.
C'est la naissance d'un monde plus social dans lequel le relationnel prend une nouvelle dimension.
Absolument, absolument. Et ce néolithique, à son tour, antécède le monde historique, puisque le passage du néolithique, c'est-à-dire des premières communautés villageoises et agricoles au monde historique, se fera progressivement avec l'invention de la ville, l'invention de l'écriture, et puis progressivement des premiers états.
Tant et si bien que lorsqu'on vous écoute parler, on en vient à se demander si, c'est une des thèses développées dans votre livre, si le néolithique doit réellement être considéré comme la dernière période de la préhistoire, ou d'ores et déjà comme la première de l'histoire, ou alors à la jonction des deux, je ne sais pas.
Bah, écoutez, c'est un peu tout ça. Vous savez, les préhistoriens, pendant longtemps, ont annexé le néolithique dans la mesure où au néolithique, on continue encore de façonner certains objets en pierre. Donc, Les gens qui envisageaient la préhistoire d'un point de vue purement technique de taille de la pierre ont fait cette différence entre la pierre ancienne, le paléolithique, et la pierre nouvelle, le néolithique, en quelque sorte. Mais ça, c'était une vision qui était essentiellement une vision de caractère technique. Au point de vue économique et au point de vue social, les choses sont radicalement différentes, puisque à ce moment-là, on bascule dans un monde qui économiquement est différent, avec une alimentation qui est fabriquée par l'homme lui-même, d'une certaine façon, et avec un monde social qui annonce déjà les civilisations historiques. Alors pour moi, le néolithique, d'une certaine façon, c'est déjà de l'histoire. Vous savez que la démarcation classique, disons, entre préhistoire et histoire, c'est l'écriture. Mais l'écriture, à mon sens, n'est qu'un pâle marqueur au niveau de cette césure supposée, dans la mesure où cohabitent des civilisations qui ont l'écrit, et encore dans ces civilisations, n'utilisent l'écrit qu'un certain nombre de personnes très très limitées, n'est-ce pas ? Et puis des civilisations contemporaines, qui sont en relation constante avec les précédentes, mais qui ne disposent pas de l'écrit.
Mais avec une organisation sociale très proche.
Alors, on peut prendre un exemple. En Mésopotamie, vers 2500 avant notre ère, on est dans des civilisations qui connaissent l'écrit, les premières traces d'écrit, bien entendu. Mais ces civilisations sont en contact avec des cultures, par exemple, anatoliennes, voire égéennes, qui, elles, ne connaissent pas l'écrit. Donc, vous voyez, il y a une ambiguïté, vraiment, à prendre l'écriture comme le point de repère optimum pour faire la différence entre préhistoire et histoire. Et d'ailleurs, toute l'histoire de la Méditerranée le montre, puisque dans le courant du second millénaire même, où nous avons des civilisations de l'écrit bien installées dans la partie orientale du bassin, elles entretiennent des contacts avec le monde occidental, qui lui ignore totalement l'écriture. Donc, si on cloisonne, si on sépare ce qui est un même moment historique, on n'est plus dans une forme de réalité. Donc, moi, je pense que le néolithique, c'est déjà de l'histoire. Même s'il y a encore, si on fabrique encore des outils de pierre, on est dans un monde rural qui commence à naître. Et ça n'est pas une fin, le néolithique, c'est un commencement.
Alors, justement, ce commencement, où a-t-il commencé ? C'est l'un des premiers débats qui a traversé, visiblement, la communauté scientifique des préhistoriens.
Bien sûr.
Vous avez cité la Mésopotamie,
oui, oui. Alors, l'Orient. J'ai cité la Mésopotamie vers 2500 avant notre ère, mais les choses avaient commencé beaucoup plus tôt. On peut, pour prendre un chiffre rond, on peut estimer qu'aux alentours de 10 000 avant notre ère, insensiblement, le néolithique se met en place au Proche-Orient. Je nuance tout de suite ce que je viens de dire, parce qu'en réalité, il n'y a pas une révolution néolithique. Il y a des révolutions néolithiques, c'est-à-dire qu'en divers endroits de la planète, à des moments sensiblement différents, des populations de chasseurs-cueilleurs progressivement vont basculer vers des populations d'agriculteurs. On reviendra au Proche-Orient, mais on peut citer également l'Extrême-Orient, avec la Chine où la domestication du millet, du riz, se produit à peu près en même temps qu'au Proche-Orient, peut-être avec un petit décalage moindre, n'est-ce pas ? Vous avez un autre exemple qui est le Nouveau Monde. Au Mexique, la domestication du maïs se produit aux alentours de 6000, 5000 avant notre ère, n'est-ce pas ? Donc, vous avez d'autres foyers du néolithique. Vous avez un foyer africain qui est tardif, avec la domestication du sorgho, la domestication du mil, du riz africain. Vous en avez un plus tardif également en Nouvelle-Guinée. Donc, vous voyez, il y a plusieurs pôles concernant le passage au néolithique. Mais celui qui nous intéresse, nous, Européens, c'est le Proche-Orient, puisque nos racines paysannes, d'une certaine façon, se trouvent au Proche-Orient, puisque c'est là que, pour la première fois, l'homme a commencé à se sédentariser. Les chasseurs se sédentarisent, puis ils commencent à domestiquer les céréales, puis ils domestiquent les animaux. Et donc, une fois cette révolution terminée, n'est-ce pas, le village, l'agriculture, l'élevage, le système va diffuser. Il va diffuser à la fois vers l'est, c'est-à-dire en direction de l'Iran et de l'Indus, vers le nord, c'est-à-dire vers le Caucase, n'est-ce pas, vers le sud, c'est-à-dire l'Égypte, et surtout vers l'Europe, ce qui nous intéresse. Et il faut dire que cette région du Proche-Orient est peut-être la région au monde qui jusqu'à présent était le plus étudiée. parce que les missions archéologiques, qu'elles soient françaises, anglaises, allemandes, et également américaines, puisqu'au fond, les origines des Blancs américains se trouvent au Proche-Orient, sont européennes et se trouvent donc au Proche-Orient.
Par translation, oui.
Voilà, donc c'est la
Mais est-ce que ça n'introduit pas un biais cognitif, du coup ? Cette focalisation un peu culturelle sur le
région-là. Oui. C'est-à-dire que souvent, on a fait des amalgames, n'est-ce pas ? Cette naissance néolithique, en même temps, c'est la zone où naissent les premières villes, les premières cités, l'écriture, les religions monothéistes, etc. Donc, tout ça a créé une espèce de mythe autour du Proche-Orient. En fait, il faut bien à chaque fois serrer les questions. Si on prend par exemple donc le néolithique, on voit que la zone motrice du néolithique au Proche-Orient, c'est ce qu'on appelle le couloir levantin, c'est-à-dire une zone qui va en gros de l'Anatolie centrale et orientale jusqu'à la mer Morte. Voyez ? Bon, si on veut parler de la naissance des villes qui se produit bien après, c'est la révolution urbaine, c'est pas ? Eh bien, il faut aller en Mésopotamie. Donc, on change, en quelque sorte, géographiquement, la zone motrice, la zone qui impulse, voyez ? Donc, il faut quand même bien serrer les questions et éviter les amalgames, comme vous le disiez.
Alors, justement, en lisant votre livre, j'ai découvert quelque chose d'assez extraordinaire. C'est, je crois que c'était la découverte en Chine, de zones de peuplement, où les capacités techniques ont précédé l'élevage et l'agriculture.
Oui, alors ça vaut pour la céramique essentiellement. Oui. En France, par exemple, les chasseurs-cueilleurs, ou la France, qui est un espace où le néolithique a diffusé tout le package, tout en quelque sorte, néolithique est arrivé, tout constitué, la céramique est un marqueur du néolithique. Les premières céramiques sont un marqueur du néolithique. Autrement dit, les chasseurs-cueilleurs du territoire français ignoraient la céramique et ensuite, ils l'ont connue avec l'agriculture. Tout
c'est
ça
concomitant.
Est arrivé en même temps. Mais dans notre région du monde, ça n'est pas le cas. Vous avez en Extrême-Orient, en Sibérie orientale, en Chine, au Japon, la fabrication de la poterie, de la céramique, qui apparaît avant l'agriculture. Autrement dit, ce sont des chasseurs-cueilleurs qui inventent la céramique et qui l'utilisent bien avant que l'agriculture ne soit là. Vous avez également le cas de l'Afrique, où la céramique apparaît antérieurement à l'économie de production. Donc, voyez...
La définition peut être mouvante, alors. Quand
voilà,
même.
Les définitions sont mouvantes. Il faut bien prendre en compte ces choses-là.
Alors, il n'en reste pas moins qu'il y a un phénomène central, fondamental et très intéressant. C'est donc, vous l'avez dit en introduction, un rapport différent à la nature. L'homme immergé auparavant dans celle-ci, dépendant de ses éventuels caprices, de ses cycles. Et donc, à un moment, grâce à l'invention de l'agriculture et de l'élevage, il s'en extrait. Et ce dont on prend conscience à la lecture de votre livre, parce qu'on imagine quelques petits villages, excusez-moi de l'imagerie, mais type village gaulois, avec un petit verger, un potager et trois chèvres. On constate en lisant votre livre que c'est quelque chose de massif, important, et que d'ores et déjà, il y a une empreinte majeure de l'homme sur son environnement.
Oui,
oui, enfin, pas alors, comparable oui, aujourd'hui, alors, j'ai bien compris. Hein,
mais... Oui et non, dans la mesure où le néolithique, c'est le début de la transformation de la nature. Autrement dit, on peut dire que les néolithiques n'étaient pas des écologistes, puisqu'ils se sont mis à brûler les forêts, n'est-ce pas, pour avoir des terrains de parcours pour leurs animaux, pour cultiver leurs champs. Donc, ils ont créé des clairières, ils ont commencé de miter la grande forêt, n'est-ce pas, qui s'était mise en place avec le réchauffement post-glaciaire à partir de 10 000 avant notre ère. Voilà. Donc, les néolithiques ont transformé la nature, mais ils ne l'ont pas transformée du jour au lendemain. La nature, régulièrement, a repris ses droits. Il ne faut pas voir l'évolution du néolithique comme quelque chose d'absolument, une évolution qui serait de plus en plus prégnante, n'est-ce pas ? De temps en temps, il y a des déprises qui se produisent. Et la nature reconquiert, évidemment, les terrains perdus. Donc, tout cela est un jeu, une sorte de face-à-face entre la nature et l'homme. La nature essayant de contrer les velléités de l'homme, on sait évidemment comment l'histoire s'est terminée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de milieu naturel. C'est l'homme qui a vaincu la nature et qui l'a totalement, démantelé, démoli, n'est-ce pas ? Bon, aujourd'hui. Donc, voyez, mais cette histoire a commencé avec le néolithique. Il faut bien en être conscient.
tout le terme de seconde naissance. Vous parliez de ce cycle court et long, hein, si on regarde l'histoire linéaire de l'homme, du néolithique jusqu'à aujourd'hui, effectivement, il y a une prise de contrôle de la nature, et puis des cycles courts. Ça peut nous amener à aborder une seconde question, qui est celle du rapport au temps, qui est aussi probablement fondamental dans la définition de l'homme, d'ailleurs. Hein, quand on se situe dans l'espace et dans le temps, peut-être que c'est la même chose, eh bien, on s'extrait aussi de... Enfin, on est une temporalité qui permet d'avoir des projets, s'inscrire dans une façon d'agir sur l'environnement. C'est sûrement lié. Pouvez-vous nous parler de ce rapport au temps de nos lointains ancêtres ?
Alors, le rapport au temps change. C'est également une donnée qui change avec l'avènement du néolithique. Le chasseur qui chasse, qui tue sa proie, qui la partage avec ses amis, ses collègues de chasse, en quelque sorte, la consommation est immédiate.
Oui, il est dans l'instant présent.
Il est dans l'instant présent. Mais l'agriculteur qui sème en automne, ou au printemps, ça peut varier, et qui ne moissonnera et qui ne stockera ou qui ne consommera que bien des mois après, est obligé d'avoir un rapport au temps complètement différent. Donc, le temps du chasseur n'est pas le temps de l'agriculteur, puisque la consommation du chasseur est immédiate, alors que la consommation de l'agriculteur est totalement différée. Voyez ? Donc, le rapport au temps est différent. Donc, il y a un cycle agricole généralement annuel ou plus ou moins annuel, qui se met en place à partir du néolithique et qui fait que le rapport au temps est totalement varie complètement par rapport, se modifie complètement par rapport aux périodes antérieures.
Donc il est d'abord saisonnier.
Il est d'abord saisonnier. C'est en fait le cycle des saisons qui rythme, n'est-ce pas, le rapport au temps. Déjà, les paléolithiques l'avaient inculqué, ça l'avait bien compris, puisque on voyait que la nature changeait au rythme des saisons. On voyait que l'animal que l'on avait à chasser, n'est-ce pas, se déplaçait et variait. Donc, il y avait toute une éthologie, n'est-ce pas, qui était intégrée par les chasseurs paléolithiques. Donc, ce rapport existait. Disons qu'il prend une autre tournure avec le néolithique, dans la mesure où le paysan néolithique est obligé de prévoir à moyen et à long terme.
Il y a une question qui traverse tout cela. Est-ce que c'est purement empirique ? Est-ce que voilà, c'est dû à l'observation ? On imagine dans un premier temps.
C'est dû à l'observation, bien entendu.
Mais dans un second temps, est-ce qu'il y a une formalisation ? Existait-il des calendriers ? Est-ce que l'observation des astres jouait déjà un rôle ?
Absolument. Alors, des calendriers, on l'avait déjà dit à propos du paléolithique. Un chercheur, Alexandre Marchak, avait croyé que certaines entailles faites sur des os, par exemple, etc., correspondaient chaque fois à des moments qui venaient de se dérouler et qui étaient donc successifs. Mais la tracéologie, c'est l'étude, c'est-à-dire l'étude des traces laissées par l'homme sur divers objets, divers matériaux, n'est-ce pas, divers supports, a démontré que souvent ces traces étaient faites de manière suivie, de manière immédiate. Et donc, cette histoire des calendriers paléolithiques n'a pas été retenue. Mais il est vraisemblable que dès les temps paléolithiques, l'homme avait intégré une forme de calendrier dans sa tête qui était due à la fois, évidemment, au changement de la végétation avec les saisons, au changement même des animaux et de leur comportement. Par exemple, les ramures des cervidés, n'est-ce pas, qui sont petites au printemps, qui poussent ensuite progressivement, qui deviennent au maximum l'été, les changements des fois dans la toison qui se modifient avec l'hiver, vous voyez, tout cela était parfaitement intégré. Mais c'est évidemment aussi les astres qui ont joué un certain rôle, parce que les cycles de la Lune, n'est-ce pas, mensuels, et qui peuvent varier à partir du moment du lieu où on les observe, tout cela, évidemment, était intégré. De sorte que lorsque les calendriers historiques, je pense, se sont mis en place, ils n'ont fait que formaliser, à mon sens, des observations qui étaient déjà tout à fait intégrées par les préhistoriques.
Donc nous avons vu que le rapport au temps était quand même essentiellement utilitaire, avec d'une part des chasseurs-cueilleurs parvenant à déduire des saisons, les rassemblements principaux des animaux à tel ou tel endroit pour bien sûr les tuer et les manger, avec le temps agraire qui est celui qui permet de savoir quand semer, quand récolter. N'y avait-il pas aussi une autre forme de rapport au temps, celui qui a trait à la mémoire, mais peut-être aussi à l'effroyable finitude de la vie humaine ?
Oui, on peut apporter plusieurs réponses. D'une part, l'idée que le temps utilitaire dont vous venez de parler, en fait, pouvait être lui-même socialisé. C'est-à-dire que chaque changement de saison qui inaugurait un nouveau cycle, en quelque sorte, de nouveaux comportements au niveau agricole, pouvait être marqué par des fêtes. La notion de temps pouvait être marquée aussi par les changements de classe d'âge. N'est-ce pas ? De l'adolescence, par exemple, passer à l'âge adulte, le moment où on devient réellement un adulte, etc. Donc tout cela devait être orchestré, si je puis dire, par des cérémonies diverses. Mais le temps social pouvait être également déduit du savoir des anciens. C'est-à-dire que les personnages âgés de l'époque avaient emmagasiné un certain savoir qu'ils pouvaient transmettre aux jeunes générations. Et on le reconnaissait, évidemment, avec le temps qui avait passé, une certaine forme de pouvoir intellectuel, je mets le mot entre guillemets. Et d'une certaine façon, le temps a un peu un lien, en quelque sorte, avec la religion, dans la mesure où je pense que les religions de ce moment-là étaient essentiellement des religions de type mythologique. C'est-à-dire qu'il y avait un savoir du groupe, avec une origine, qui était peut-être une origine un peu fantasmée en quelque sorte, n'est-ce pas, et que ce savoir se transmettait, n'est-ce pas, d'où le culte de l'ancestralité, des ancêtres, la notion des ascendants qui avaient disparu, de la transmission
la
des
lignée.
Générations. Voilà, la lignée. Une espèce de culte généalogique, si vous voulez. Et tout cela, évidemment, montre que le temps n'était pas perçu que d'une façon strictement économique, mais aussi d'une façon, je dirais, sociale, et avec peut-être aussi un temps sacré, n'est-ce pas ? Mais la différence entre le temps sacré et le temps quotidien, pour ces époques-là, c'est quelque chose qui est très difficile à définir. Les barrières ne sont pas très, très bien marquées.
C'est charmant d'ailleurs, non ? Le fait que le sacré et le profane soient entremêlés comme ça.
C'est ça, c'est ça.
l'autre élément d'ailleurs, c'est que peut-être cela préexiste-t-il ? Mais on a quelque peu le sentiment que la création d'une organisation sociale, de la conscience d'un groupe, permet d'ores et déjà de surmonter cette angoisse de la mort. Existait-il cette angoisse de la mort ? Certainement, tout le monde
Alors,
a peur de la
oui,
mort.
Oui, évidemment, évidemment. Mais le problème aussi, c'est le problème de la durée de la vie qui est là-dedans. C'est-à-dire que ces néolithiques n'avaient pas une durée de vie globalement semblable à la nôtre, puisque, disons que de très nombreux sujets mouraient pratiquement à la naissance, autour de la naissance, au cours des premières années de la vie également. Et que la durée moyenne de vie, on la situe, mais alors là je mets des guillemets, autour de 30 ans, approximativement 25-30 ans, n'est-ce pas ? Avec beaucoup de morts féminines d'ailleurs, au moment, par manque d'hygiène, des accouchements, n'est-ce pas ? Bon. Mais on a des personnages également qui deviennent âgés pour l'époque, c'est-à-dire on peut avoir des gens de 60 et même 70 ans au néolithique.
Pour revenir sur... nous évoquions les aspects sacrés et profanes, on découvre également dans votre ouvrage la prégnance de l'imaginaire, avec une sorte d'aller-retour, on ne sait pas s'il naît spontanément, s'il est une construction destinée à renforcer le groupe qui est né. Alors dans une construction mythologique, généralement, le fait religieux est à l'origine de la naissance du groupe. Ici, on a plutôt le sentiment qu'il vient consolider quelque chose qui s'est fait spontanément.
Oui, en fait, la question que vous posez a un rapport direct, en quelque sorte, avec la naissance du néolithique. Pendant longtemps, on a pensé que le néolithique, c'était effectivement, je l'ai dit en début d'émission, quelque chose essentiellement économique. Autrement dit, de chasseurs, on devenait agriculteur. Mais en réalité, les choses sont plus compliquées que ça. Lorsqu'on regarde dans le détail comment les choses se passent d'une manière très découpée, très, très rythmée, on s'aperçoit qu'en fait, on se sédentarise d'abord. Autrement dit, on fait le pari de pouvoir vivre à plusieurs familles sur un espace plus restreint, puisque les chasseurs ont de grands territoires de chasse, alors que les agriculteurs, n'est-ce pas, en ont de petits. On n'est pas encore agriculteur, mais on sait qu'à proximité, on a des animaux qui peuvent venir boire auprès d'un fleuve, d'un cours d'eau, d'un lac, etc. Donc, on peut avoir la chasse, on peut réaliser la chasse à proximité. on peut cueillir des plantes à proximité, on peut pêcher à proximité. Donc, il y a une construction, en quelque sorte, sociale qui fait qu'on se sédentarise. On fait le choix de vivre dans un espace qui est un espace choisi peut-être pour son intérêt économique. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que ces premiers chasseurs qui se sédentarisent créent la nécropole. Autrement dit, les morts, on pouvait les abandonner, de temps en temps on en enterrait un, etc. Mais là, la notion, quelque sorte de génération, se met en place. La nécropole, c'est une façon de conserver ses morts, c'est-à-dire ses ascendants, auprès de soi. Et c'est en même temps un acte de propriété sur un espace. Nous vivons là parce que nos ancêtres vivaient là. Donc, si vous voulez, vous avez la sédentarisation implique à la fois les vivants et les morts. Donc, cette notion, en quelque sorte, de continuité à travers les cultures, etc. Alors, pour revenir à votre question, c'est un peu, ce sont ces origines qui ont été probablement mythifiées ensuite, peut-être avec vues d'une façon beaucoup plus grandiose, avec des ancêtres fondateurs, etc., qui a été prise en compte par le groupe et qui s'est transmise de génération en génération, peut-être d'ailleurs en grossissant, en se déformant, etc. Et c'est cette, de mon point de vue, c'est cette religion-là qui a été en quelque sorte le fil conducteur des premières sociétés agraires. Alors après, vous pouvez me dire, qu'est-ce qui est arrivé? Comment sont nées les divinités? Les divinités, ça peut très bien être, non pas les ancêtres de chaque famille, mais les ancêtres du personnage dominant du groupe, qui, lui-même en prenant de plus en plus de poids social, a en quelque sorte entériné le poids, la valeur de ses propres ancêtres. De sorte que, finalement, le chef, le dominant, qui veillait sur la collectivité, et bien parallèlement, dans le domaine du sacré, ses propres ancêtres ont été déifiés parce qu'eux-mêmes veillaient, n'est-ce pas, idéologiquement, spirituellement, sur l'ensemble de la communauté.
À travers cet exemple, à travers bien d'autres dans votre livre, il y a une sorte de réévaluation, j'ai l'impression, des causes cognitives des phénomènes. C'est-à-dire que je crois qu'on est dans un domaine un peu proche. Assez longtemps, la plupart de l'école préhistorique, des membres de l'école préhistorique déduisaient effectivement des comportements, notamment le rapport avec la nature, de nécessité, de type matériel, utilitaire, de survie et autres. Et notamment, dans la domination de la nature, vous remettez en cause ce thème en montrant que, par exemple, certains animaux ont été domestiqués alors qu'ils n'avaient pas nécessairement de rôle à jouer dans la survie du groupe, tant et si bien qu'on arrive à l'hypothèse que l'instinct de domination, peut-être intrinsèque à l'homme, a aussi joué son rôle. Pouvez-vous nous développer un petit peu cette thèse?
Oui.
Cette hypothèse.
Oui. Qu'est-ce que c'est que la domestication, au fond? Bon. Et notamment la domestication animale en particulier. C'est le pouvoir que l'homme exerce sur un animal. Alors, je vais prendre un cas particulier, qui est un peu particulier effectivement, c'est la domestication du chat. Ça m'intéresse directement parce que avec mon équipe, j'ai mis au jour à Chypre la plus ancienne sépulture connue avec un chat. Mais on pourrait le dire également du chien, d'ailleurs quelques millénaires auparavant. C'est-à-dire que l'homme, un animal qui est un animal de compagnie, avec qui il entretient des liens qui sont des liens affectifs et pas des liens liés directement à la consommation de viande, à la nourriture, etc. Et lorsque cet homme meurt, on sacrifie son chat, n'est-ce pas, pour que son chat l'accompagne dans l'au-delà. Bon, à Chypre, le cas que j'ai étudié remonte vers 7500 avant notre ère. Mais déjà, on avait le même comportement chez les natoufiens, c'est-à-dire chez des pré-néolithiques, n'est-ce pas, des épipaléolithiques, en quelque sorte, vers 12000, 10000 avant notre ère, où on a des chiens qui sont enterrés avec leur maître. Donc, vous voyez, le pouvoir de l'homme sur l'animal est quelque chose d'important. Et alors, vous me direz, la chasse qui, elle, était faite, évidemment, pour nourrir les humains, est arrivée vers 8500 avant notre ère à peu près. pardon, la domestication de l'animal, mais cette domestication, en réalité, elle n'a pas été brutale. Autrement dit, on voit au Proche-Orient notamment les communautés qui continuent de chasser. Et elles ont un petit troupeau, là, à côté. Mais la chasse, pendant quelque temps, reste l'élément essentiel pour l'acquisition de la viande. Et ça n'est que progressivement que le troupeau prend plus d'importance, etc. Donc, vous voyez, la domestication montre que l'homme s'est essayé à domestiquer, mais d'une manière inutilitaire au départ, la matière vivante animale. Et ça n'est que progressivement que l'économie a pris le dessus.
C'est-à-dire qu'il se rend compte de l'intérêt et des potentialités de cet acte postérieurement son accomplissement.
Voilà, c'est ça. Autrement dit, l'invention, au départ, n'est jamais, on peut le dire de la métallurgie, c'est exactement pareil, n'est jamais quelque chose qui est fait dans un but pratique. C'est une curiosité, c'est une fantaisie. Regardez la métallurgie. Déjà, au Proche-Orient, vous avez des villages en Anatolie qui, vers 9000, 8500 avant notre ère, vous avez des personnages qui commencent à chauffer le métal natif, qui commencent à le trafiquer, à faire des perles, à faire des fils, à faire de petites haleines, par exemple, etc. Ça n'a aucun intérêt immédiat dans le quotidien de ces populations. Aucun intérêt. Vous avez également, alors je prends un exemple plus tardif, vers 4000 avant notre ère, en Israël, dans une grotte proche de du Jourdain, on a trouvé plus de 400 pièces extraordinaires, des sceptres, des couronnes, des récipients en cuivre, puisque le cuivre est le premier métal découvert par l'homme, mais dans l'utilité pratique, immédiate, est totalement nul. Un peu comme si les premiers, en quelque sorte, les premiers métallurgistes de cette époque-là, s'étaient amusés à faire des choses extravagantes, qui avaient probablement une valeur du côté du sacré, peut-être, du clinquant, du bling-bling, on dirait aujourd'hui, voyez, mais qui n'ont pas de fonction pratique, par exemple, pour faire des haches pour déforester, ou pour faire des socs de charrue, etc.
Voyez. Oui, on est dans le domaine des arts décoratifs et pas l'industrie.
Voilà. Si vous voulez, le côté pratique de l'invention, de la découverte, se manifeste apparemment dans un second temps.
Est-ce que ça ne nous amène pas à... Je repense au rapport aux autres êtres vivants, à réévaluer, et parmi les autres êtres vivants, hélas, il n'y a pas que les animaux, il y a aussi nos semblables, les autres hommes de cette époque, à réévaluer les formes que peut prendre la sociabilité humaine, la coopération peut-être, mais aussi le conflit, l'affrontement, voire la guerre. Vous consacrez deux chapitres à cette question.
Oui, j'ai même publié en 2001 avec Jean Zamit un livre qui s'appelle Le Sentier de la Guerre, qui montre en fait que les guerres, la violence, on la connaît de tout temps pratiquement, hein, mais que les guerres semblent se développer, les premiers massacres, en quelque sorte, on les voit vers la fin des temps paléolithiques. C'est-à-dire que l'homme n'est pas encore un agriculteur, parce que la thèse classique, c'est de dire « Ah, mais les conflits naissent avec le néolithique, puisqu'avec le néolithique, on fabrique, on produit, on crée des surplus, donc cela crée l'envie, la compétition, etc. » Mais non, déjà, les gens de la fin du paléolithique se tapaient dessus. Voyez ? Donc, je pense que la violence est très ancienne et que la guerre a pu naître. Elle a pu naître, alors j'en reviens peut-être là à une, mais nous n'avons pas d'autres explications pour l'instant. Elle a pu naître évidemment à partir du moment où l'homme a plutôt eu tendance à se sédentariser, c'est-à-dire à créer des territoires, n'est-ce pas ? On se sédentarise, on crée des villages ou on crée des proto-villages, on crée un territoire alentour. Ce village, il a sa propre identité, il y a des frontières que l'on se fixe, n'est-ce pas ? On borne son propre espace économique, mais les voisins en font autant, d'où les frictions éventuelles. Et on pense que les traces de massacres que nous avons, notamment dans le Mésolithique européen, le Mésolithique, c'est la période qui antécède immédiatement le Néolithique, ce sont des chasseurs-cueilleurs qui voulaient s'octroyer les terres dans lesquelles on trouvait le plus de ressources.
Évidemment, oui, on peut se battre pour des territoires de chasse aussi, oui.
Voilà, ressources de chasse, ressources de pêche, et puis plantes sauvages, n'est-ce pas, à consommer. Donc la violence est quelque chose d'ancien. Et alors, à partir du néolithique, évidemment, les choses redoublent, si je puis dire, puisqu'on a toute une série de massacres, notamment dans le néolithique à céramique rubanée, disons, en gros vers 5000 avant notre ère, en Allemagne notamment, on a trouvé à plusieurs reprises, et encore récemment, des fosses communes, dans lesquels nous avons des sujets, hommes, femmes, enfants, qui ont été exterminés, probablement par un groupe voisin.
Toutefois, une partie de la thèse, c'est que la violence précède largement le néolithique, et il y a comme un petit parfum au-delà des causes utilitaires, alors postérieurement ou antérieurement, elle peut aussi avoir des causes instinctives
ou
symboliques.
Oui, bien sûr. Mais alors ça, c'est l'ethnologie qui nous l'apprend. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les gens ne se battent pas que pour des motifs purement économiques. Vous avez par exemple une mort suspecte dans un groupe, on accuse automatiquement le groupe voisin d'être la cause de cette chose-là, d'avoir jeté un sort, etc. Il peut y avoir des causes psychologiques, il peut y avoir aussi des rapes de femmes et d'enfants, hein, qui sont démontrées d'ailleurs par l'archéologie. Donc vous avez toute une série de causes symboliques, idéologiques, et puis aussi le besoin d'en découdre pour se construire un statut social. Hein ? Ça, c'est très intéressant. C'est que les femmes sont écartées des armes à cette époque-là. Bon. Elles sont écartées des armes parce que les armes...
Aujourd'hui encore, assez largement, aussi, d'ailleurs.
Bon. Mais les statues menhirs, par exemple, nous le montrent très bien. Les statues menhirs que l'on trouve de la Crimée jusqu'à la péninsule ibérique montrent des hommes qui sont toujours des personnages armés. Alors que les femmes, elles, au contraire, nous montrent, elles sont déjà dans la séduction, elles nous montrent des colliers, elles nous montrent leur poitrine, vous voyez, les sexes n'étant jamais représentés. Donc, l'homme se réserve les armes, parce que les armes, par la chasse ou par la guerre, lui permettent de se construire un statut social. Donc, vous voyez en même temps comment ces sociétés, du point de vue du genre, sont également très codifiées.
Oui, vous consacrez un chapitre passionnant, la genèse du guerrier et la façon dont sa figure apparaît progressivement, mais là aussi avec des allers-retours, d'ailleurs. Il y a et la naissance d'une aristocratie guerrière.
Oui. Alors, le guerrier, je dirais le guerrier à temps plein. Il n'existe pas au néolithique, le guerrier à temps plein. Évidemment, les hommes sont armés, ils se battent à l'occasion, etc. Mais le guerrier, ça suppose une organisation, une armée. Ça, nous ne le voyons apparaître qu'au Proche-Orient, par exemple en Mésopotamie, vers 2500 avant.
Là où il y a des villes.
Voilà, il y a des villes, les villes se battent, on le sait, les textes le démontrent. L'étendard d'Ur, qui est une sorte de panneau, n'est-ce pas, en bitume, avec des incrustations de coquillages, de cornaline, de lapis-lazuli, nous montre des combats, nous montre des guerriers, des prisonniers, etc. Mais là, on est déjà dans un contexte urbain, très organisé socialement, avec une hiérarchie très forte. Mais en Occident, les gens se battent, mais il n'y a pas d'armée constituée. Et le guerrier, proprement dit, en Occident, n'émergera que très lentement. Il émergera au cours de l'âge du bronze. Et il émergera à partir du moment où apparaîtront, parmi les armes, la pique et surtout l'épée. Parce que quand le néolithique se bat, comme les chasseurs qui les ont précédés, ils se battent à l'arc.
Se battent avec les armes qu'ils utilisaient pour chasser.
Voilà, ils se battent avec les armes qu'ils utilisaient. Tandis qu'ensuite, on va voir... Et puis alors, l'archer, à ce moment-là, il est anonyme un peu. C'est un embusqué, quelque part. Au contraire, le guerrier qui, petit à petit, se construit, c'est pas, il aura l'épée, il aura la lance, c'est-à-dire, il se battra de façon... Ça sera un combat rapproché, c'est pas. Et là, je dirais que les... Comment dire, les notions de courage, de valeur, de, n'est-ce pas,
oui, de bravoure, tout ce qui s'attache bravoure, encore aujourd'hui
tout,
à la figure,
voilà,
du guerrier.
Tout cela, évidemment, apparaîtra à cette époque-là. Et petit à petit, on arrivera au guerrier, je dirais, à temps plein, au spécialiste, qui va se mettre à la disposition des aristocrates du lieu, qui eux-mêmes auront intérêt à avoir une force armée, à la fois pour protéger les biens de leur communauté, mais aussi éventuellement pour piller les gens qui passent sur les zones de grands courants de circulation. Et, hélas.
Alors, précisément, moi, ce que je trouve fabuleux dans cette analyse-là, c'est qu'une fois de plus, l'idée précède la réalité incarnée.
Oui, absolument.
Et ça, c'est quand même une forme de révolution de notre façon de voir les choses.
Bien sûr. Autrement dit, vous avez déjà, si vous regardez les statues menhirs dont je parlais il y a un instant, là, européennes, vous avez une image du guerrier qui est représentée vers 3000 avant notre ère, n'est-ce pas, avec ces personnages en armes, parfois avec beaucoup d'armes d'ailleurs. Vous avez des statues menhirs, des stèles anthropomorphes du nord-est de l'Italie, où vous avez des personnages avec des tas de poignards, des hallebardes, des haches, etc. Autrement dit, des représentations iconographiques de personnages très importants, qui devaient être des chefs redoutés, n'est-ce pas, de l'époque. Voilà. Et à côté de ça, vous avez donc des personnages qui devaient se battre avec eux, mais il n'y a pas d'armée constituée, parce que l'évolution sociale, encore, n'était pas faite pour donner naissance à ces armées. Mais le concept de guerrier, il est déjà dans les mœurs. Il ne deviendra effectif au sens de guerrier spécialisé que 1 à 2 millénaires plus tard.
Oui, ce qui signifie, peut-être que je m'aventure trop, mais cela y invite, que les idées, l'imaginaire, les catégories mentales mènent quand même le monde et l'évolution de l'humanité, de son organisation, autant que les contraintes matérielles extérieures.
Absolument, absolument. Et je pense que j'en ai fait la démonstration dans mon ouvrage.
Ce qui nous mène à un dernier aspect, parce qu'il y a tout un chapitre, mais ça court tout au long du livre, de remise en cause des théories successives sur la nature de l'homme, mais aussi de cette période particulière où il naît une seconde fois, comme vous le dites. Est-ce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure de l'avancée des recherches, les préjugés de notre époque pèse sur la façon dont on voit nos lointains aïeux, ce qui est finalement bien naturel, mais on voit bien que probablement que la philosophie matérialiste ou le marxisme ont pesé dans la focalisation sur les facteurs économiques de l'évolution, dans le débat entre polygénèse, est-ce que le néolithique est né dans des foyers autochtones ou par diffusion, bah, si on a une tendance plutôt nationaliste attachée à l'État-nation qui venait de naître au 19e, eh bien on penche plutôt vers une thèse autochtone, et à l'inverse, dans les salons éclairés, on est très orientaliste à la même période, donc finalement on ne trouve pas si déshonorant que ça de voir nos racines lointaines en Mésopotamie ou au Levant.
Oui, mais
est-ce que ça ne perdure pas aujourd'hui, d'ailleurs ?
Mais bien entendu, mais vous le dites fort justement, l'archéologue comme l'historien est un sujet de son temps. Il vit dans son temps, il épouse les théories de son temps, et comme l'histoire, l'archéologie revisite en permanence ses données, qui ne cessent de croître d'ailleurs, heureusement, pas bon, revisite en permanence ces données en fonction du milieu culturel dans lequel l'archéologue baigne lui-même, bien entendu.
Est-ce que vous nous parlez, un exemple que je trouve formidable, c'est celui du structuralisme. Est-ce que vous pouvez nous
oui, le structuralisme, en gros, n'est-ce pas, la théorie, c'était que chaque culture est respectable, et chaque culture, en quelque sorte, s'auto-définit et évolue selon sa dynamique propre. Alors évidemment, à un moment donné, dans le courant des années 60-70, ça a eu un impact en archéologie. Parce qu'il ne s'agissait plus de s'intéresser à des transversales, n'est-ce pas, qui auraient en quelque sorte unifié ou lancé des ferments d'unification entre les cultures, mais de prendre les cultures de façon individuelle et de voir quelles étaient leurs forces d'évolution. Mais il faut voir qu'en archéologie, ça correspondait aussi à un moment qui était le développement du radiocarbone, c'est-à-dire de la possibilité de dater d'une manière beaucoup plus précise les cultures, que l'on a vu toujours tendance d'ailleurs à compacter par prudence. On s'est rendu compte que le radiocarbone, par exemple, pour le néolithique européen, montrait que ce néolithique n'avait pas été compressé dans le temps, mais s'était déroulé sur plusieurs millénaires. Et le radiocarbone, en même temps, donnait des dates parfois, parce qu'au début, la méthode se cherchait, bien entendu, des dates plus anciennes que les dates de la zone motrice, c'est-à-dire du Proche-Orient. Alors, il y avait beaucoup d'archéologues qui disaient « mais c'est pas la peine de regarder vers les Proche-Orient. Nous avons connu, nous, notre propre néolithisation.
Antérieure.
Voilà, antérieure, etc. » Et donc, en même temps, si vous voulez, toutes ces idées, n'est-ce pas, qui venait de l'anthropologie culturelle, qui influençait l'archéologie, jouait dans les reconsidérations théoriques de l'époque, bien entendu. Et ça n'est pas étonnant si c'est à cette époque-là, dans les années 60-70, qu'on a eu en Europe tout un courant explicatif en archéologie, un courant autochtoniste. Voyez ? Voilà. On retrouvait un peu, à ce moment-là, les oppositions qui avaient caractérisé, déjà au XIXe siècle, les archéologues qui pour certains étaient orientalistes, c'est-à-dire qui envisageaient déjà, à juste raison d'ailleurs, que le néolithique s'était forgé au Proche-Orient, c'est-à-dire là où étaient apparues les premières villes, les premières grandes civilisations, et d'autres qui récusaient cette façon de voir et qui disaient « mais l'Europe n'a jamais eu besoin, n'est-ce pas, du Proche-Orient pour arriver à ses propres créations ».
Pour conclure, et aujourd'hui, je vous demande un exercice difficile, quelles seraient l'ère du temps, les idées en vogue aujourd'hui qui introduiraient de possibles biais ou changements de focale, en tout cas dans l'étude de la préhistoire ? Du néolithique.
Oui. Alors, ce que je crois, c'est que les progrès, en quelque sorte, viendront essentiellement des techniques de plus en plus pointues qui seront à notre disposition. Je vais prendre un exemple, c'est celui de la paléogénétique. Pendant longtemps, les archéologues se sont étripés, excusez-moi le terme un peu trivial, pour savoir si précisément les premiers agriculteurs européens étaient des gens qui venaient du Proche-Orient et qui avaient petit à petit, au fil des générations bien entendu, occupé tout l'espace européen, au détriment des chasseurs-cueilleurs dont ils avaient spolié les territoires de chasse, un peu. Au fond, le néolithique, c'est notre conquête de l'Ouest américaine. C'est exactement pareil. Ce sont, en quelque sorte, des agriculteurs qui, petit à petit, éliminent les chasseurs-cueilleurs. Ou si, ces populations locales de chasseurs-cueilleurs, suffisamment dynamiques, avaient emprunté les recettes de l'agriculture et de l'élevage, et de façon très dynamique, n'est-ce pas, les avaient mises en pratique, etc. Eh bien, petit à petit, grâce à l'ADN, qui en est encore à, n'est-ce pas, on n'a pas beaucoup de données au niveau quantitatif et donc statistique, eh bien, on s'aperçoit que, effectivement, il y a des gènes qui sont des gènes masculins, qui sont essentiellement d'origine proche-orientale. Et curieusement, les gènes féminins, souvent, sont des gènes qui, n'est-ce pas, l'ADN mitochondrial, qui viennent des chasseurs-cueilleurs locaux. Un peu comme, je caricature là, hein, et il faut le prendre comme ça, un peu comme si ces intrus avaient épousé des autochtones et que de ces mariages, nous soyons un peu les lointains descendants.
Un petit peu l'histoire de la fondation de Marseille que vous nous racontez.
Voilà,
une fois,
voilà,
un peu
voilà.
Mythologique.
Ou les barbares qui épousent des gallo-romains.
Protis aegyptis. En tout cas, ce qui est certain, c'est quels que soient les débats fort savants qui traversent cette période, au final du livre, ces lointains ancêtres nous semblent finalement extrêmement proches, je le disais en introduction, mais malgré tous leurs défauts, leur aptitude à la belligérance, à l'affrontement, les massacres épouvantables, on aurait pu peut-être même parler de l'anthropophagie, je crois, malgré tout, on les sent extraordinairement proches de nous, et presque, on a un sentiment presque fraternel à leur rencontre,
mais vous
à leur
savez,
regard.
Les néolithiques, ils sont très modernes, je mets le mot entre guillemets, ce sont nos grands-parents.
Merci beaucoup. Avant de nous quitter définitivement, je rappelle quand même, pour ceux qui ne trouveraient pas sur le site internet, les références du livre passionnant de Jean Guilaine, La seconde naissance de l'homme, le néolithique, c'est aux éditions Odile Jacob. C'est un formidable voyage que je vous invite à faire en lecture vers nos grands-parents, comme le disait Jean Guilaine. Merci de votre fidélité. Thank you.